20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'histoire de notre société. Ce soir, notre jour J est le 31 mars 1889. La Tour Eiffel est inaugurée à Paris après 2 ans de travaux et de très violentes critiques. Mais aujourd'hui, succès retentissant, le monde entier succombe à la Dame de Fer et Paris a trouvé son emblème. A tout de suite pour une émission exceptionnelle de jour J depuis la Tour Eiffel. Vous allez apprendre plein de choses.
Quand la troublette, quand la troublette, y a pas de Paris sans Tour Eiffel.
On la débine, on la charrie. Partout, ce n'est qu'un cri.
Paris ne serait pas Paris sans elle.
Arriver, c'est la Tour Eiffel. Tour Eiffel, Tour Eiffel.
Nous sommes le 31 mars 1889. Du haut de ses 324 mètres, elle est le centre de tous les regards. Après 2 ans, 2 mois et 5 jours de chantier parfois rageusement contestés, la Tour Eiffel est enfin inaugurée. Mission réussie donc pour Gustave Eiffel et ses 2 ingénieurs, Maurice Coquelin et Émile Nouguier. Leur tour sera le clou de l'exposition universelle de 1889 qui commencera dans 1 mois et demi. Ce sont eux qui ont remporté le concours organisé pour l'occasion. Le projet a été retenu parmi 107 candidatures. Elle est belle, celle que l'on surnomme la Dame de Fer. Elle peut même se la péter. Véritable prouesse technologique, lestée par son poids de 10 000 tonnes, ses courbes sont savamment étudiées pour résister aux vents les plus violents. Et puis surtout, en 1889, la Tour Eiffel est la plus haute tour du monde, offrant à ceux qui auront le courage de grimper ses 1710 marches une vue inédite et imprenable sur Paris. Oui, vous avez bien entendu, 1710 marches. Mais bientôt, 5 ascenseurs hisseront au sommet de la Tour Eiffel 2 millions de visiteurs durant l'exposition universelle. Au premier étage, ils auront le choix entre 4 restaurants. Un russe, un bar anglo-américain, un restaurant français bien évidemment et un établissement flamand. Au deuxième, ils pourront acheter leur journal Le Figaro, qui a installé son imprimerie là, justement, sur la Tour Eiffel. Mais ce qui remporte tous les suffrages, c'est de pouvoir envoyer son courrier, une lettre d'amour par exemple, accrochée à un petit ballon et envoyée de la plus haute tour du monde. C'est pas romantique ça ? Bref, carton plein pour cette belle coquette qui pour l'heure est de couleur rouge-brun. Depuis, en 130 ans, elle a été repeinte 19 fois et de 7 couleurs différentes. Et pourtant... Pourtant, ce n'était pas gagné pour la Tour Eiffel, qui avant même la fin de sa construction, était au cœur de tous les débats. Les plus grands noms des arts de l'époque, Charles Gounod, le compositeur de Roméo et Juliette notamment, Guy de Maupassant, Paul Verlaine ou encore Charles Garnier, l'architecte de l'opéra du même nom inauguré il y a 14 ans, insultent le projet. On parle alors d'un lampadaire véritablement tragique, d'un squelette de beffroi et même d'une haute et maigre pyramide d'échelle de fer dont la base semble faite pour porter un formidable monument de cyclope et qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminée d'usine, écrit Maupassant. Ils livreront même une lettre commune de protestation contre la Tour Eiffel en 1887. S'ils avaient tout le talent qu'on leur reconnaît par ailleurs, les intellectuels et les artistes de l'époque n'avaient pas celui du visionnaire. Dès son inauguration, la Tour Eiffel a conquis le cœur de ses visiteurs ébahis. Visite exceptionnelle dans jour J d'une vieille dame de 132 ans qui ne devait en vivre que 20, d'une fringante qui scintille le soir au début de chaque heure et que le monde entier nous envie. Dans un instant, Sava Yetman Eiffel, arrière petit-fils de Gustave Eiffel, sera notre guide et notre invité. Bonsoir à tous, bienvenue dans jour J, bienvenue à la Tour Eiffel.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous dans Jour J pour une émission absolument exceptionnelle jusqu'à 21h. On voit la ville d'en haut et je pourrais presque dire que l'on voit ce soir le monde d'en haut car nous sommes actuellement sur la Tour Eiffel. Je dirais la Tour Eiffel qui est évidemment le monument très certainement le plus connu au monde. Et vous nous accueillez, Sabine Yetman Eiffel. Merci d'être notre guide ce soir jusqu'à 21h.
Bonsoir.
Donc vous vous appelez Sabine Yetman Eiffel, ce qui veut dire que vous êtes l'arrière petit-fils de Gustave Eiffel. Vous êtes vice-président de l'association des descendants de Gustave. Excusez-moi, je l'appelle Gustave parce que j'ai un peu l'impression d'être chez lui.
On se sent très proche de la Tour Eiffel et donc de Gustave.
Exactement. Est-ce que vous avez justement l'impression d'être un peu chez vous quand vous êtes sur la Tour Eiffel?
Un petit peu, c'est vrai. J'y suis revenu très souvent depuis que je suis petit. Donc c'est un peu comme une seconde maison.
Alors, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans un endroit comme celui-ci? Parce que c'est effectivement très impressionnant. Là, nous sommes à 280 mètres. C'est le plus haut point que l'on puisse atteindre lorsque l'on visite la tour. Moi, ça m'impressionne parce que je vois Paris à mes pieds. Mais vous, justement, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est impressionnant de venir sur les traces de son arrière-arrière-arrière-grand-père?
Chaque fois que je viens, je suis venu des tas de fois. J'ai la même émotion. En fait, je trouve que la tour, on peut la voir dès que la lumière change sous différents angles. Je la redécouvre à chaque fois. Donc, même si je suis venu plein de fois, c'est le même émerveillement pour moi à chaque fois. Et puis, bien sûr, en tant que descendant, il y a un rapport un peu plus proche. Il y a une certaine fierté, certainement. Et puis, il y a un rapport plus personnel, plus direct. Je me rappelle la première fois que je suis venu ici, je devais avoir 4 ou 5 ans. Et ma mère me montre la statue de cire de Gustave Eiffel qui est dans le bureau là, à côté au troisième étage. Elle me dit, voilà, tout de suite, le monsieur là qui est là derrière la vitre, c'est lui qui a construit tout ça et c'est ton arrière-grand-père. Donc ça met un peu un choc, ça pose un peu quand on est petit. Et depuis, il y a une fierté, mais aussi une petite pression parce qu'à Paris, où qu'on aille, on peut voir la tour. Et j'ai un peu la pression de voir un Gustave de 300 mètres qui me regarde là, du haut de sa tour et qui me dit, voilà, moi j'ai fait ça et toi, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Donc, voilà, ça met un peu la pression.
En tout cas, merci de nous accueillir parce que vous allez être notre guide. Cette tour, vous vous y êtes attaché, vous la connaissez, je dirais, par cœur. Et grâce à vous, on va vivre énormément de moments très forts qu'on va essayer de décrire aussi à nos auditeurs ce soir. Alors, revenons à notre jour J, 31 mars 1889, inauguration de cette tour. Je le disais en fait, Elia, un instant, c'est vraiment dans le cadre de l'exposition universelle de 1889.
Tout à fait. Donc l'exposition universelle, c'est la 10e qui se tient à Paris. Les premières expositions ont commencé en 1951 à Londres. Et c'est depuis devenu une espèce de grand-messe qu'on célèbre régulièrement dans les grands pays modernes pour célébrer les avancées technologiques et être un peu une vitrine aussi internationale, montrer ce qu'on peut faire.
Mmh. On avait lancé un appel d'offres, en fait. Hein.
Tout à fait. C'est important qu'il y ait un symbole de marquer les esprits, en fait, par rapport aux autres expositions qui ont lieu avant. Et l'exposition qui va rester sans doute le plus dans les mémoires, c'est celle de 89, grâce à la Tour Eiffel.
Alors pourquoi? Parce qu'un appel d'offres ou un appel à candidature est lancé, 170 projets sont proposés et on choisit celui de votre arrière-arrière-arrière-grand-père. Alors c'est un événement évidemment mondial, on sait que beaucoup de gens de l'étranger vont venir. Il faut préciser aussi que lorsque le projet a été sélectionné, choisi, il a été sujet à énormément de polémiques, c'est-à-dire qu'au départ, elle n'était pas très très bien accueillie hein, cette tour.
Donc il y a eu plusieurs projets concurrents, dont certains qui étaient plutôt... Eiffel était plutôt un statut de challenger au départ, en fait, quand il commence un peu se lance dans la course. Cette tour de 1000 mètres, qui était un projet qui hantait un peu les esprits déjà depuis le début du 19e siècle. Il y avait eu des projets en Angleterre, il y en avait eu aux États-Unis. Et là, enfin, la tour, techniquement, va être faite, mais ça restait un grand pari technique à accomplir. Il y avait d'autres projets qui étaient beaucoup plus dans l'air du temps. On est encore dans un monde très académique, avec des artistes des Beaux-Arts, des Prix de Rome. L'Opéra Garnier, c'est en 75. C'est juste avant. Et la Tour Eiffel, ça marque vraiment cette rupture un petit peu entre moderne et ancien et une espèce de passage de relais aussi entre les architectes traditionnels et les ingénieurs. Donc ça choque. Visuellement, c'est complètement différent. Il n'y a pas des petits angelots, il n'y a pas des statues, des décorations. C'est la force mathématique qui détermine la forme de la tour. Et donc ça choque, ça gêne. Tout comme les impressionnistes avaient choqué quelques années avant avec leurs œuvres, la tour suscite une grosse polémique.
Oui, et puis une grosse polémique, des mots très durs des élites, je dirais, des arts et de la littérature. Donc on aurait pu se dire que l'opinion allait quelque part aussi s'élever contre la tour Eiffel. Et pourtant...
Ils ont bien tenté de le faire, puisque au moment de la construction de la tour, les travaux commencent le 26 janvier 1887. Et juste quelques semaines plus tard, le 14 février, les plus grands artistes de l'époque signent une protestation où ils s'attaquent à la tour dans les termes les plus violents, que c'est une cheminée d'usine qui va écraser de sa masse barbare Paris, son histoire. Et donc Eiffel va résister et faire paraître sa propre justification, et avec beaucoup de bravado, mais aussi de sagesse, un petit peu contrer les arguments. Et voilà, cette ultime attaque ne parvient pas à soulever l'opinion finalement contre la tour. Et petit à petit, les Parisiens vont au contraire être gagnés de fascination par cette tour qui s'élève petit à petit.
Oui, c'est ça, ils assistent à la construction. Enfin, d'ailleurs, on voit des photos de l'époque qui, bien souvent d'ailleurs, sont diffusées le 1er avril où on nous dit que la tour, elle est construite. Mais c'est vrai qu'on voit comment cette tour finalement s'élève. Et ça a été plus de 2 ans de travaux devant les Parisiens.
Mais 2 ans, 2 mois et 5 jours, ce qui est extrêmement rapide. Le Washington Monument qui a été construit. Inauguré quelques années avant, qui fait seulement 169 mètres, a eu 36 ans ou 38 ans, je vois, de construction, enfin, qui a été interrompu par la guerre, etc. Mais là, c'est incroyable de construire un bâtiment de cette taille, un tel défi technologique en aussi peu de temps.
Elle devait être détruite, cette tour. Ce sont les télécommunications qui l'ont sauvée ?
Alors, le contrat passé avec l'État était pour une concession de 20 ans. Effectivement, la tour devait être détruite au bout de 20 ans. Et Gustave, très vite, a senti qu'il fallait qu'il protège cette œuvre, qui était son chef-d'œuvre, en quelque sorte. Et donc, il a entrepris de nombreuses recherches sur la tour pour essayer de justifier scientifiquement qu'on la maintienne en place. Et ce qu'il a vraiment sauvé, c'est les recherches de TSF, donc de télégraphie sans fil, qui vont prendre une importance grandissante et qui vont s'avérer capitales, notamment en 14-18. Et donc la tour, devenant stratégiquement fondamentale, ne pourra plus jamais être détruite. Et c'est ça qui va la sauver au final.
C'est normal que j'ai cette sensation de bouger ?
Il y a une légère oscillation sur la tour.
On est d'accord, hein ?
On est tout à fait d'accord. Par grand vent, la tour, ça peut jusqu'à 12 cm d'oscillation par grand vent. Bon, là, c'est très, très léger. Il y a un petit côté psychologique aussi d'être en haut et de sentir le vent dans les cheveux, mais il y a une légère oscillation. Mais la tour est prévue pour ça. Elle est en fer puddelé. Il y a une élasticité dans la structure. Et c'est très bien, puisque si elle devait résister fortement, on pourrait risquer que la structure se détériore, se fissure. Mais comme elle a cette flexibilité, bah, elle laisse passer la force du vent.
C'est vrai que Gustave Eiffel avait son bureau, même ses appartements, en fait, en haut de la tour.
Alors, tout à fait. Juste à côté de nous, il y avait les appartements que ça avait fait, je vais vous y emmener, on va regarder, c'est juste à côté.
Je peux me mettre à votre bras là parce que je trouve que ça bouge un petit peu. Je trouve qu'il y a un petit peu de vent.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Bienvenue sur RTL, on est ensemble jusqu'à 21h. Pourquoi suis-je en train de parler si doucement? Parce que si vous écoutez bien, on entend la ville. La ville juste en dessous de nous, car nous sommes actuellement à un des points les plus hauts, les plus culminants de Paris. Nous sommes à 280 mètres en haut de la Tour Eiffel pour une émission absolument exceptionnelle dans laquelle vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur, je dirais quelque part, Savigny Hetman Eiffel, le monument le plus connu du monde.
Absolument, le monument payant le plus visité aussi, parce qu'il y a, il y a 7 millions de visiteurs qui viennent et il y a eu 300 millions de visiteurs depuis l'inauguration de la tour.
Voilà, et des visiteurs qui sont autour de nous. Pour expliquer un petit peu à nos auditeurs où nous sommes, là nous sommes au dernier niveau de la tour, évidemment des touristes qui viennent, qui reviennent, on en parlera tout au long de cette émission, et puis à nos pieds, une ville qui nous semble soudain si petite, si magique. On a l'impression que les distances ne sont plus les mêmes, ce que l'on met parfois 3 heures à faire en voiture, on a l'impression de pouvoir le faire en un saut de puce. La Seine nous apparaît une sorte de lacet comme ça qui serpente dans une ville finalement pas si haute que ça, hein, plutôt plate.
Vous êtes impressionné, mais il faut imaginer ce que les visiteurs ont ressenti en 89. C'est-à-dire, il y avait pas d'avion encore, il n'y a pas de voyage en avion, il n'y a pas de bâtiment haut. Donc on passe de 169 mètres à 300 mètres, le bâtiment le plus haut du monde. Et donc ça devait être un choc encore plus merveilleux.
Voilà, et ce qui explique effectivement que beaucoup aient eu le courage avant que les ascenseurs ne soient installés de monter les 1710 marches à pied, ce que l'on salue parce que là on est venu en ascenseur, bien heureusement pour nous. Alors Savigny Hetman Eiffel, vous êtes l'arrière-arrière-arrière petit-fils de Gustave Eiffel. Vous m'avez tenu le bras jusqu'ici parce que nous sommes devant le bureau de votre grand-père. Mais avant de nous le décrire et avant de rentrer dans son univers, je voudrais qu'on revienne sur le drapeau français qu'il a lui-même hissé, accroché à la tour Eiffel le jour de son inauguration le 31 mars 1889. C'était tout. C'était encore au-dessus de nos têtes là ?
Oui, tout à fait. Donc la tour faisait 300 mètres à sa construction. Maintenant avec l'antenne de TNT, elle fait 324 mètres. Et Gustave Eiffel a gravi donc cette tour avec les officiels, avec les représentants de la ville de Paris, du gouvernement, les ouvriers et plusieurs courriers, des journalistes aussi. Ils ont monté donc cette tour qui n'avait pas encore d'ascenseur. Et ils ont gravi jusqu'au sommet. Eiffel portait un grand drapeau de 7 mètres sur 4. Et voilà, ils arrivent au sommet dans le campanile qui n'existe plus aujourd'hui, qui était une espèce de petite plateforme où se trouvait le phare de la tour Eiffel. Et il déploie ce grand drapeau en disant, voilà, c'est la première fois qu'un drapeau français aura une hampe de 300 mètres.
C'est exactement ça. Alors, maintenant, nous sommes là juste devant son bureau. Mais en fait, il a vécu ici, Gustave Eiffel ? C'était ses appartements ?
Gustave Eiffel avait un appartement privé qui faisait beaucoup plus que ce petit bout de bureau qu'on voit maintenant encore, c'est-à-dire les fenêtres du troisième étage.
Ceci dit, il a eu raison, hein. Il a eu raison de s'installer là, on est d'accord.
C'était un assez bon endroit.
Vous pouvez dire qu'il ne s'embêtait pas, mais enfin bon, en même temps, je l'aurais fait à sa place. Il avait tout le niveau là.
Dans la concession, en fait, c'était déjà prévu que ce niveau serait entièrement réservé à Gustave Eiffel. Il y avait un lit pour dormir, il y avait une salle à manger pour recevoir des invités. Il y avait des laboratoires aussi, puisque Gustave Eiffel faisait des expériences sur la tour Eiffel, de météorologie, notamment de chute des corps. Donc voilà, c'était vraiment un endroit où il a vraiment passé beaucoup de temps et qui reste ouvert longtemps. Mes grands-parents, pour la petite histoire, ma grand-mère qui a bien connu Gustave quand elle était jeune, a passé sa nuit de noces dans cet appartement en 1935.
Vous auriez bien aimé, non ?
J'aurais bien. On a des photos.
Ça doit être quelque chose.
En robe de chambre sur la plateforme, là, tout seul.
Non, mais faire l'amour sur la tour Eiffel, en haut de la tour Eiffel, ça doit être un truc de fou, quoi.
Mon père aimait dire que c'est peut-être là qu'il a été conçu. Je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà.
Ah là là, mais ça va. Mais là, vous nous racontez des histoires incroyables, mais c'est formidable. Ceci dit, moi, j'aurais pas hésité, j'aurais essayé tout de suite. Alors là, c'est un petit peu plus sérieux dans ce bureau, parce qu'on voit votre arrière-arrière-arrière-grand-père avec Thomas Edison. Pourquoi?
Thomas Edison, autre grande figure de la fin du 19e, autre grand ingénieur. Ils se sont rencontrés à l'occasion de l'exposition de 89, où Thomas Edison est venu présenter son phonographe et aussi les nouvelles ampoules qu'il avait créées. Ils ont mangé ensemble, ils sont venus ici. C'est là que Thomas Edison lui a remis un exemplaire de son phonographe qu'on voit là. Et on voit derrière aussi Claire, mon arrière-arrière-grand-mère, qui était très proche de Gustave Eiffel, qui l'accompagnait souvent dans son travail, puisque la femme de Gustave est morte quand elle était encore très jeune. Et Claire a pris le relais dans la maison, s'occupait de l'éducation de ses frères et de ses sœurs, et c'était aussi un peu l'assistante de Gustave Eiffel dans son travail.
D'accord, c'est la raison pour laquelle elle est aujourd'hui exposée. Racontez-nous un petit peu qui était Gustave Eiffel. Qu'est-ce qu'on vous en a dit, vous, de votre illustre arrière-arrière-arrière-grand-père?
En quelques mots, c'est difficile à résumer, mais je pense que c'était quelqu'un qui avait une passion, une croyance, comme d'autres, c'est-à-dire d'autres scientifiques et ingénieurs de cette époque-là, une croyance au progrès. C'est une époque où on croit encore que le progrès va apporter des choses merveilleuses et seulement des choses merveilleuses. On sera petit peu au XXe siècle avec les guerres qui vont arriver, on sera un peu détrompé par ça, mais il y a cette volonté de changer le monde et de se rendre compte de toutes les choses que l'homme peut accomplir. Et quelque part, cette tour, qui au départ n'a aucune fonction, elle ne sert à rien, c'est juste pour célébrer en fait le génie français, le génie de l'homme, voilà, sa victoire un peu sur la nature. Et donc, il est dans cette énergie-là et c'est ce qui le conduit, je pense, tout au long de sa vie à faire des projets de plus en plus fous. Le pont Maria Pia, le viaduc de Garabit, la tour Eiffel, donc des grands monuments qui repoussent les limites de ce qu'on peut faire.
Parce que la tour Eiffel était son dernier monument en tant qu'entrepreneur, hein, c'est ça?
Alors, c'est son dernier grand ouvrage. Il y a eu d'autres projets juste après qui ne se sont pas faits. Il y avait un projet de métro suspendu à Paris, il y avait un projet de pont-tunnel sous la Manche, mais ces projets, pour différentes raisons, ne se sont pas faits. Il se trouve qu'ensuite, Gustave Eiffel s'est retiré des affaires et s'est concentré sur ses recherches scientifiques.
Voilà, c'est ça. Il a travaillé avec beaucoup d'ingénieurs, parce qu'il faut préciser effectivement que lui avait toute une équipe autour de lui, hein, dans ses projets.
Absolument, absolument. Et il ne faut pas oublier de les citer, notamment sur la Tour Eiffel, il y a deux collaborateurs très importants qu'il faut citer, c'est Maurice Coquelin et Eugène Nouguier, qui sont les deux qui vont travailler ensemble, et Maurice Coquelin en tout premier lieu, qui vont proposer à Gustave, puisque Gustave, on va faire l'exposition universelle, il faut produire quelque chose, un symbole, un clou de cette exposition, et Gustave demande à ses équipes de plancher sur la question, et Maurice Coquelin, en juin 1884, fait le premier, un dessin qui reste encore très sommaire, qu'il appelle d'ailleurs un pylône, le pylône de 300 mètres, et c'est cette première forme qui ressemble à la tour, mais en beaucoup plus épurée, qui sera la base de ce qui va devenir un peu plus tard la tour Eiffel.
Ce que je vous propose, Savin, c'est qu'on descende, parce que vous m'avez promis une vue aussi belle finalement au dernier étage qu'au deuxième ou qu'au premier étage de la tour Eiffel. On va descendre progressivement, voir un petit peu à quoi ça ressemble, et puis moi, il y a quelque chose qui me fascine, c'est que cette tour, elle est à la fois extrêmement puissante, elle est extrêmement solide, d'ailleurs quand on est dessus, on se rend compte effectivement de sa solidité, mais elle a quelque chose de gracieux et de très fragile aussi lorsque l'on la regarde. Dans un instant, vous allez nous expliquer comment s'est construite la tour Eiffel. On se retrouve tout de suite dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand
jusqu'à 21h sur RTL.
Merci d'être avec nous sur RTL, et si vous nous rejoignez seulement, sachez que nous vous faisons voyager non seulement dans le temps, mais je dirais quelque part aussi un petit peu dans les airs ce soir pour cette émission exceptionnelle depuis la Tour Eiffel. J'ai un petit peu des yeux d'enfant parce que je revois finalement une ville que je connais bien. Je la vois d'une autre façon. Quand vous la regardez de ce premier étage de la Tour Eiffel, vous la voyez tout à coup beaucoup plus petite et à portée de main. Vous avez l'impression que vous pouvez saisir les monuments de Paris et les déplacer. Il y a quelque chose d'absolument féerique. Et merci vraiment, Savine Yatman Eiffel, en tant qu'arrière, arrière, arrière petit-fils de Gustave Eiffel, de nous accueillir et de nous faire découvrir cette Tour Eiffel qu'on va maintenant, je dirais, quelque part ausculter davantage, un peu comme une vieille dame qui régulièrement quand même se refait une petite beauté. Hein. Elle a déjà eu plein de couleurs différentes, cette tour Eiffel.
Oui, il y a eu 7 couleurs différentes. Au début, elle était rouge, elle est passée par des couleurs jaunes, et on est dans les couleurs actuelles depuis les années 60, donc ce brun brun parisien.
Ouais.
Mais on va changer prochainement la couleur pour venir vers une teinte un peu plus jaune, qui correspond plus à la teinte qu'elle a eue au début du XXe siècle.
Voilà, et qui de loin paraîtra peut-être un peu plus dorée dans l'espace urbain parisien. Dites-moi, pour la construire, vous nous le disiez tout à l'heure, un temps record, hein, d'un tout petit peu plus de 2 ans et 2 mois, 5 jours je crois,
oui, hein,
c'est
fait.
Ça c'est très précis. Un temps absolument record. Combien d'ouvriers ont travaillé sur ce projet? Racontez-nous un petit peu la construction de ce monument qu'est la Tour Eiffel.
Il y a eu très peu d'ouvriers en fait sur la Tour Eiffel, on s'est du mal à se l'imaginer. Il y a 100 ouvriers qui travaillaient à Levallois. Levallois-Perret, c'est là que Gustave Eiffel avait ses usines, enfin ses ateliers. Et donc toutes les pièces étaient préparées à partir des plans qui avaient été établis au millimètre près, au dixième de millimètre près par les ingénieurs. Et on a construit 18 000 pièces qui ont été emmenés par chariot jusqu'à la Tour Eiffel, jusqu'au champ de Mars. Et ensuite, tout était assemblé par une équipe d'à peu près 130 monteurs ici sur le site de la Tour Eiffel. Et c'était vraiment comme un grand mécano, c'est-à-dire que chaque pièce était prévue pour suivre une autre pièce. Dans beaucoup de chantiers à l'époque, sur le site, les gens perçaient, les gens interprétaient, retravaillaient, etc. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, les choses vont très vite et très précisément. Tout s'emboîte, tout s'enchaîne parfaitement.
Mais alors, ça veut dire qu'en fait, elle est arrivée en kit presque sur le champ de Mars?
Absolument, c'est un kit.
La Tour Eiffel est en kit. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Je ne sais pas, donc, le nombre de rivets, voilà, les 18 000 litres pièces, de peinture.
Voilà, 18 000 pièces au total. 2 500 000 rivets, ce qui en fait quand même beaucoup. Sachant qu'un rivet, ce n'est pas comme un boulon. Un rivet, c'est, donc pour riveter deux pièces centrales, il y a une équipe de 4 personnes. Il y a le mousse qui chauffe le rivet. Donc le rivet, c'est un peu comme un boulon, mais il n'y a pas de pas de vis.
Ouais.
Donc on chauffe le rivet à 1000 degrés. Après, il y a le teneur de tas qui introduit le rivet dans le trou entre les deux pièces. Il y a le riveteur et le frappeur qui viennent créer une nouvelle tête dans le métal chaud de l'autre côté. Et en refroidissant, le métal se contracte et donc ça tient très 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 fermement les pièces. C'est très très solide.
Rappelez-moi, ils ont fait ça combien de fois?
Alors, il y en a eu 1 million qui étaient pré-rivetés à Levallois-Perret. Il y en a 1 500 000 qui ont été faits sur la tour. Donc déjà, c'est difficile, mais quand on est en équilibre sur une petite plateforme à 250 mètres, par exemple, c'est vraiment autrement plus périlleux.
Voilà, vous le disiez tout à l'heure, il n'y avait pas d'avion à l'époque, donc c'était un point culminant sur Paris. Donc il faut préciser aussi que lorsque l'on travaillait sur ce genre de chantier, les règles de sécurité n'étaient pas les mêmes. On ne pouvait pas acheminer, évidemment, les énormes morceaux de métal de la même manière. Enfin, on était vraiment dans un autre temps, en fait.
Tout à fait. Il y a deux grues à vapeur qui étaient sur la tour, qui ont emprunté, dans un premier temps, les chemins des futurs ascenseurs. Et puis après, dans la partie supérieure de la tour, quand les quatre pieds se rejoignent au-dessus du deuxième étage, il y avait deux grandes grues de 40 tonnes qui se montaient l'une l'autre, de 9 mètres par 9 mètres.
C'est dingue.
Une opération qui prenait 30 heures avec 10 personnes, donc c'était extrêmement compliqué. Et donc, on n'avait pas des robots, on n'avait pas d'électronique. Il n'y avait pas d'électricité. Tout ça, c'est vraiment fait à l'ancienne avec un peu de vapeur et surtout la force des bras et le talent des ouvriers.
Mais bien sûr, et puis de l'huile de coude, hein, là pour le coup. Est-ce qu'il y a eu des accidents pendant ce chantier?
Alors, ce qui est incroyable, il n'y a eu aucun accident sur la Tour Eiffel. Il y a eu un mort, si on veut être totalement honnête, mais c'est quelqu'un qui venait de Levallois-Perret et qui est venu après la fermeture du chantier pour impressionner sa petite amie qui a voulu escalader à la Tour Eiffel et qui est tombée. Mais en dehors de cet accident regrettable, il n'y a eu aucun mort sur la tour, ce qui est aussi incroyable. C'est-à-dire que sur tous les grands chantiers de l'époque, et même au XXe siècle, sur l'Empire State Building ou les grandes tours, il y a 10-15 morts. Là, il n'y en a pas. Et Gustave Eiffel faisait très très attention, respectait beaucoup ses ouvriers, qui le lui rendaient bien. Et donc, il y avait des règles très strictes sur la tour de sécurité. Et grâce à ça, il n'y a aucune victime.
C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y avait des restaurants, plusieurs restaurants. Là, actuellement, il en existe deux. Mmh. Une brasserie et le célébrissime restaurant Jules Verne.
Absolument.
Avec le chef Frédéric Anton, qui vient d'en prendre les commandes il y a peu de temps. À l'époque, il y avait 4 restos.
Oui, 4 restaurants.
On pouvait guincher à la Tour
Eiffel.
Voilà,
tout à fait. Et c'était important parce que donc Eiffel a investi beaucoup d'argent de sa propre poche dans ce projet fou de la Tour Eiffel. Il fallait rembourser cet investissement. Donc la tour, en 6 mois d'exploitation, a eu pratiquement 2 millions de visiteurs qui ont remboursé les frais, mais aussi les restaurants, les petits souvenirs qui étaient venus sur la tour, aussi contribué à rembourser ce gros investissement, ce gros risque financier de Gustave Eiffel.
Voilà, et ça a attiré beaucoup de monde. Est-ce qu'il y avait des gens qui venaient juste pour dîner au restaurant, je dirais, au-delà même de la tour?
Absolument, il y a eu 1 900 000 visiteurs en 6 mois, ce qui est énorme, surtout à une époque où les touristes étaient encore beaucoup, beaucoup moins nombreux qu'ils ne sont aujourd'hui.
Et je le disais aussi, il y avait l'imprimerie du Figaro.
Alors, le Figaro avait installé une petite imprimerie au premier étage qui faisait une édition spéciale tous les jours. Et les visiteurs pouvaient, en achetant cet exemplaire, pouvaient aussi faire imprimer leur nom sur l'exemplaire. Donc ça faisait un souvenir de leur visite.
On dit d'ailleurs que la Tour Eiffel a changé beaucoup de choses en matière de tourisme et de ce que l'on appelle aujourd'hui les fameux goodies. Donc il y avait beaucoup de produits dérivés déjà de la Tour Eiffel. Il y avait déjà cette idée aussi du commerce autour du monument.
Tout à fait. Au départ, Gustave Eiffel avait donné une exclusivité au bon marché. Et finalement, Gustave a renoncé à ses droits sur la Tour Eiffel pour permettre à tous les petits marchands qui vendaient des souvenirs pour l'exposition de 89 de pouvoir faire des verres, des assiettes, des tablés et j'en passe. Mais c'est ça aussi qui a beaucoup moins de revenus pour Gustave Eiffel et pour ses pauvres descendants. Mais la bonne chose, c'est que ça a vraiment participé à rendre vraiment la tour, que tout le monde s'approprie la tour et que dans le monde entier on puisse l'utiliser. Et donc ça l'a rendu encore plus populaire dans le monde entier.
Voilà, vous parlez justement du monde entier et on entend autour de nous des touristes étrangers qui reviennent progressivement sur cette tour. Et c'est vrai que c'est toujours assez fascinant de voir à quel point cette tour attire les regards. On va se retrouver dans un instant dans Jour J. Alors là, on est encore en hauteur, mais ce que les gens ignorent, c'est qu'il se passe des choses en dessous de la Tour Eiffel, en sous-sol. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ?
Il y a les mécanismes qui permettent le fonctionnement des ascenseurs, qui sont des mécanismes d'époque et qui datent de 1900, qui ont été conservés à l'identique. Et donc c'est assez mystérieux, assez étrange de voir ça.
Et vous nous y emmenez ?
On se croit, c'est Jules Verne.
Ah, génial ! Vous nous y emmenez, justement. On a envie des émotions avec vous quand même, hein, ça va. Allez, à tout de suite sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand jusqu'à 21h sur RTL.
Merci de nous suivre dans Jour J. Alors là, vous devez vous demander si vous nous suivez depuis 20h où nous nous trouvons avec notre invité guide, Savin Yetman Eiffel. Alors oui, nous nous trouvons toujours à la Tour Eiffel puisqu'aujourd'hui, on célèbre, c'est notre Jour J, donc l'inauguration de la Tour Eiffel le 31 mars 1889. Mais là, nous sommes sous la Tour Eiffel. Vous m'aviez promis un univers à la Jules Verne. Je suis scotché par tout ce qui nous entoure. Est-ce que vous pouvez décrire à nos auditeurs où nous sommes ?
Alors, on est dans les sous-sols du pilier ouest où sont cachés les mécanismes, les pistons, le piston hydraulique de l'ascenseur. Donc, c'est un système qui est d'époque, qui a été modernisé en 1900 par rapport à ceux de 1889. Mais les ascenseurs Fivelil qu'on voit ici sont exactement les mêmes. La machinerie est la même. Elle est entretenue avec amour par les équipes techniques de la Tour Eiffel.
Mais s'il y avait le moindre problème sur une pièce ?
C'est très très solide, mais s'il y a le moindre problème, il faut vraiment tout refaire à la main. Il n'y a pas de plan, c'est vraiment du sur-mesure. Et il n'y a que deux ascenseurs de ce type dans le monde. Il y en a un dans le pilier est et il y en a un dans le pilier ouest de la Tour Eiffel.
Donc c'est toujours au même endroit, quoi, finalement. Alors ce qu'il y a de fou aussi, Savin, c'est qu'on est là, je dirais, quelque part dans le ventre, hein, si je puis dire, finalement, d'un monument qui n'aurait dû vivre que 20 ans. Et ça fait 132 ans. C'est-à-dire que même ce système-là d'élévation qui nous entoure est un système qui n'aurait pas dû vivre aussi longtemps. C'est dire si votre arrière-arrière-arrière-grand-père faisait un travail, je dirais, de qualité.
Alors, je pense que Gustave, dès le départ, en fait, avait bien l'intention de ne pas s'en tenir à ses 20 ans de concession qu'il avait signé. La tour étant rivetée aussi, elle est vraiment faite pour durer. Tout a été prévu pour durer. Et il s'est beaucoup battu pour étendre la durée de la concession et que ce qu'il savait être son célèbre reste pour les générations futures.
Alors, c'est fou parce que là, je vais essayer de décrire hein, quand même, hein, pour ceux qui nous écoutent. On est à côté de grandes roues rouges, d'un rouge vif, qui tourne à mesure que finalement les ascenseurs s'élèvent dans le monument. Devant nous, c'est quoi ces trucs absolument énormes ?
Trois énormes accumulateurs qui pèsent chacun 200 tonnes et qui servaient à l'origine à faire la pression sur l'eau pour injecter l'eau sous pression et donc faire avancer le piston qu'on voit à côté. Puisque nous avons ici un piston qui doit faire dans les 16 mètres avec un système de poulies, avec un chariot. Et donc le câble de la cabine est attaché à ce chariot. L'eau pousse le piston qui s'éloigne horizontalement et donc en poussant le chariot, il tire sur le câble et c'est ce câble démultiplié par les poulies qui fait monter jusqu'à 115 mètres au deuxième étage de la Tour Eiffel.
Et c'est grâce à ce système qu'on est monté pendant cette émission, justement, dans la Tour Eiffel. Il y a toute une atmosphère aussi, il y a des odeurs ici. Hein. On n'est pas dans un lieu touristique, on est dans un lieu de charbon, je dirais quelque part, de travail.
Révolution industrielle.
C'est ça, voilà, c'est à l'image en fait d'une révolution industrielle.
C'est un film
ici.
Steampunk. Et les gens qui travaillent ici, avec lesquels j'ai eu l'occasion de parler plusieurs fois, sont vraiment amoureux de leur travail, de maintenir la tradition, la technique ancestrale de cette technologie. Il n'y a pas d'autres exemples dans le monde et vraiment, c'est vraiment un plaisir pour... ça coûte plus cher, c'est plus compliqué à maintenir en place, mais si on perdait cette tradition, cette technique qui était tellement révolutionnaire pour l'époque, ce serait vraiment dommage. Et un petit truc qui est rigolo, c'est que ce piston est graissé avec de la graisse de bœuf. Donc on est dans un haut lieu de c'est une haute technologie, mais comme à l'ancienne, il y a des techniciens qui viennent tous les jours avec un seau de graisse de bœuf, avec un pinceau, un simple pinceau, et qui graissent le piston pour qu'il fonctionne bien. Et c'est des techniques très anciennes, mais voilà, ça perdure et ça fait donc 132 ans que ça fonctionne.
Voilà, et toujours quelque part, effectivement, résolument moderne. Alors, cette tour Eiffel, on la voit absolument partout. Elle a été chantée par les plus grands. Elle représente Paris, on la voit dans des publicités de parfums. Et puis, on la voit prochainement d'ailleurs, hein, puisque c'est dans 2 jours que sort au cinéma le film Eiffel. Est-ce que vous l'avez vu ?
Oui, oui, j'ai eu l'occasion d'être invité à une avant-première très tôt avec d'autres descendants pour qu'on donne un peu notre avis, notre première réaction sur le film. Donc c'est un film qui est assez romancé par rapport à l'histoire de la tour, mais c'est un film qui nous a touchés parce que pour la première fois, on voit Gustave Eiffel en chair en os. Et on le voit aussi dans toute son énergie de chef d'équipe, prenant des risques, affrontant l'adversité. Et on a du mal à se l'imaginer habituellement quand on voit des photos un peu posées en noir et blanc de l'époque. Il fallait vraiment avoir osé, aimé prendre des risques pour se lancer dans des paris aussi fous. Et ça, c'est très bien rendu dans le film. Et Romain Duris, qui joue Gustave Eiffel, est très convaincant.
Voilà, et c'est un film donc du réalisateur Martin Bourboulon avec Romain Duris, Pierre Delalonchamp et Emma Maki. Est-ce que ça a été émouvant pour vous aussi de voir sur grand écran votre arrière-arrière-grand-père que vous n'avez jamais connu ?
Alors c'est un peu troublant, surtout que non seulement il y a mon arrière-arrière-grand-père, mais il y a aussi Claire, donc qui est mon arrière-arrière-grand-mère, et il y a Adolphe Salle, mon arrière-arrière-grand-père. Donc
là, j'étais toute la famille.
Peu, voilà, toute la famille, quoi.
Et alors, ça fait quoi ?
Ça fait un petit peu bizarre, et c'est pour ça que j'ai eu peut-être un peu de mal à rentrer dans le film la première fois, mais je l'ai revu une deuxième fois, et là, je me suis beaucoup plus laissé emporter comme un spectateur normal par le souffle, un peu, par le rythme, par les images qui sont très belles, et donc je pense que c'est au final un très beau spectacle.
Voilà, un très beau spectacle au cinéma à partir du 13 octobre, c'est-à-dire mercredi prochain. Dites-moi, on m'a dit que j'étais convoqué par le directeur. Vous savez de qui il s'agit ?
Je crois que c'est Patrick, mais alors
Il est sympa ou pas ?
Il est assez sympa, je pense que ça se passera bien.
On m'a dit qu'il fallait remonter en fait au premier pour retrouver donc le directeur. On va emmener nos auditeurs évidemment. Et alors maintenant, j'aurai une pensée pour vous évidemment, puisque je vais monter dans l'ascenseur. Et grâce à vous, je sais comment ça fonctionne désormais, les ascenseurs de la Tour Eiffel. Merci beaucoup. Savin d'avoir été donc notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes réalisateur et notamment réalisateur d'un documentaire sur Gustave et sur la Tour Eiffel.
Tout à fait, avec Mathieu Schwartz. Et ça va être un angle de vue un petit peu différent sur la Tour Eiffel et qui devrait être assez intéressant.
Bon, bah, très bien, vous nous tiendrez au courant. En tout cas, merci d'avoir été notre guide. Et c'était un plaisir de vous rencontrer. À bientôt, Savin. Merci.
Merci.
Et nous, on se retrouve dans un instant avec Monsieur le Directeur dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand.
Ah, on se pose en cette fin de Jour J. On approche de 21h sur RTL, mais nous sommes toujours à la Tour Eiffel. Avec vous, désormais, Patrick Branco-Ruiveau. Merci d'avoir accepté de me recevoir. J'ai eu l'impression d'être convoqué par Monsieur le Directeur, parce que c'est effectivement ça. Vous êtes directeur général de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel. C'est un peu votre maison aussi, à vous.
Tout à fait. Bonjour Flavie, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je suis le directeur, mais je suis gentil, moi. Vous savez,
vous avez l'air donc, plutôt sympa.
Il n'y a pas de problème.
Racontez-nous un peu.
On est ravis vraiment de vous accueillir. Bah, la Tour Eiffel, elle se remet petit à petit du Covid.
C'est vrai que j'ai eu le sentiment, en passant devant la Tour Eiffel, à ces différentes périodes successives de confinement, j'avais le sentiment que la Tour Eiffel faisait un petit peu la tronche, elle était un petit peu triste, elle était privée.
Hein. Bah elle était triste parce qu'elle n'avait pas ses visiteurs, elle n'avait pas ses 800 employés qui font vivre la Tour Eiffel. Donc ouais, bien évidemment, on était un petit peu triste. Et puis là, on reprend parce que nous, à la Tour Eiffel, on a toujours l'espoir. Et on sait que ça va, voilà, que les choses vont revenir et qu'elles vont revenir différemment parce qu'on attire plus un public de proximité maintenant aussi. Et tout ça va revenir. Voilà, on est content parce qu'on voit du public qui revient en nombre.
En fait, elle en a vu passer hein, des choses, cette vieille dame de 132 ans qui est la Tour Eiffel. Elle a vu des périodes, elle assiste finalement, je dirais, au monde et à ses tourments parfois de là où elle est. Quoi.
Bah, elle devait être démantelée, puis finalement elle ne l'a pas été. Elle a traversé les vicissitudes des deux guerres, elle a eu des périodes compliquées. Mais surtout, la Tour Eiffel, c'est un endroit qui donne du rêve. Et on donne du rêve à nos visiteurs. On donne du rêve aux personnes qui passent devant elle et qui la voient scintiller la nuit. Donc c'est ça moi, que j'essaie de retenir, c'est le bonheur qu'elle donne plutôt que le Covid. Je dis toujours aux personnes, vous mettez votre masque et après, vous oubliez le reste. Et ouais, vous profitez de la vue sur Paris et de la Tour Eiffel.
Vous parliez justement de la Tour Eiffel qui scintille. Elle scintille à chaque début d'heure, hein, le soir, depuis les années 2000.
Tout à fait.
Et c'est vrai que j'ai l'impression aussi que quand on regarde la Tour Eiffel, c'est un peu comme si on prenait la température du monde. Elle accompagne les moments tristes et funestes. Elle fait la fête aussi avec nous et elle nous invite à la fête dans des moments joyeux. C'est comme un étendard de l'humeur du monde.
Bien sûr, c'est un étendard de l'humeur du monde. C'est un étendard de Paris aussi.
Ouais.
C'est un étendard de la France. Donc elle traverse les épreuves avec les populations et en même temps, comme vous dites, on est là pour être dans la vie et être dans la joie.
Ouais, elle s'éteint parfois aussi dans
alors
des moments.
Alors elle s'éteint la nuit, elle s'éteint parfois pour des moments de deuil.
Ouais.
On l'avait vécu avec le président Chirac, par exemple, ou des moments plus tristes des actes terroristes. Mais on est vraiment dans voilà, elle, tous les soirs en même temps, c'est un vrai diamant. Ouais. Qui s'illumine toutes les heures pendant 5 minutes.
Tiens, j'ai une dernière question à vous poser avant de parler des projets de la Tour Eiffel. La vérité, personne ne nous écoute. Il vous arrive de venir comme ça quand elle est fermée, d'être tout seul genre le soir et de vous faire un petit tour?
Alors pas forcément parce que je ne sais pas faire fonctionner les ascenseurs.
Mais vous pouvez
donc,
marcher,
seul,
vous pouvez monter les marches.
Alors sur les marches, je sais le faire, bien sûr.
Mais à votre place, moi, je passe la soirée ici.
Quand il y avait, oh, je passe beaucoup de temps déjà moi sur la toile, mais y compris le week-end. Donc, mais oui, non, j'ai ce privilège de pouvoir venir quand il y a personne sur la toile.
Et là, c'est comment alors?
Bah, c'est des moments magiques, mais moi, je préfère toujours la tour avec les visiteurs et avec les équipes.
Oui, en fait, vous préférez la tour dans son showtime, quoi,
hein,
dans ses moments de vie. Quels sont les projets de la Tour Eiffel, là? Parce qu'on disait qu'elle accompagnait beaucoup de choses. On va avoir une actualité, hein, les JO 2024, la ville de Paris. Donc forcément, la Tour Eiffel est concernée, non?
On travaille effectivement avec la ville, le COJO, puisque juste en face, vous voyez le grand palais éphémère où il y aura des épreuves, sur le Champ de Mars, également sur le Trocadéro. Donc on est un peu au cœur du dispositif. On a tout le temps des réunions en ce moment pour préparer déjà 2024. Et puis à plus court terme, pour recevoir nos visiteurs là au printemps, à la belle saison, on va avoir un immersive game, on va lancer des visites guidées, puis on va réouvrir notre brasserie aussi au premier étage.
Mais oui, vous êtes en travaux.
Ouais, avec Thierry Marx, et ça va être un super endroit pour prendre le petit-déj, venir boire une coupe de champagne le soir. Et voilà, que les Franciliens, les Parisiens se réapproprient la Tour Eiffel, pour nous c'est très important.
Eh bien merci en tout cas de nous avoir reçus.
Merci Flavie,
c'était
et puis j'attends
plaisir.
Les auditeurs et les auditrices de RTL.
Bah, on les invite à venir effectivement découvrir, s'ils ne connaissent pas, cette dame de fer, cette vieille dame qui, je le disais, en fait est vraiment fringante. Elle a de la gueule, quoi.
Elle a de la gueule.
Et on s'y sent bien. Merci
elle est super
beaucoup.
Belle.
Ouais, merci Patrick Branco-Ruivo d'avoir accepté ces quelques instants avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette émission exceptionnelle. On ne l'oubliera pas et j'espère qu'on vous a fait vivre de l'intérieur cet endroit magique. On se retrouve demain dès 20h sur RTL.